Il est 8h23 ici à Paris. Nous accueillons Norbert Navarro pour la revue de la presse. Bonjour Norbert.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Et à la une de la presse française ce matin, cette rencontre historique dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées entre le leader du Nord, Kim Jong-un, et le président du Sud, Moon Jae-in.
Oui, c'est en effet dans la maison de la paix de Panmunjom, dans la zone démilitarisée, que les deux Corées se sont retrouvées il y a quelques heures pour une rencontre historique, vous le dites, car depuis l'armistice du 27 juillet 1953, aucun leader du Nord n'avait foulé le sol du Sud. Ce sommet intercoréen, c'est une chance pour la paix, lançant une la croix. Il est historique, souligne aussi ce journal, il va faire naître l'espoir fou d'une paix durable sur la péninsule. Et tout le clergé catholique sud-coréen prie pour la réussite de ce sommet, complète le quotidien catholique français justement. Moment historique, c'est une chance unique qui peut-être ne se représentera pas, dit un retraité à Séoul, interrogé par la Croix. Il faut l'accepter, ne pensons pas à la réunification pour le moment. Elle n'est pas nécessaire à ce stade. Pensons d'abord à la pacification, à mettre un terme à ce conflit qui dure depuis trop longtemps. La guerre va peut-être enfin se terminer, ça n'est pas rien, enchérit un cinéaste coréen. Mais attention, prévient dans la Croix une étudiante de Séoul, je n'ai pas confiance en Kim Jong-un et en la Corée du Nord. Je crois que c'est l'arrivée de Donald Trump et ses pressions qui ont poussé le Nord à accepter ce sommet et la rencontre en juin prochain. Pourtant, tous mes amis étudiants n'aiment pas Trump, ajoute-t-elle. C'est enfin la fin de la guerre, dit à Libération le grand écrivain et militant pacifiste Wang Sok-yong. Espérons, soupire ce même journal, si ce sommet est peu préparé, c'est un fait. S'il est marqué par une méfiance de près de 70 ans, c'en est un autre. Il s'ouvre aussi dans une incertitude vertigineuse, mais pour ce quotidien, le plus vraisemblable est que le Nord cherche à gagner du temps, sachant que l'échec lamentable de l'expérience stalinienne de Pyongyang place le régime en position de faiblesse, mal camouflé par son parapluie nucléaire. Énonce Libération.
L'affaire Lafarge à présent, Norbert, avec une affaire qui fait trembler en haut lieu, alors que le groupe cimentier français est empêtré dans une procédure judiciaire de présumé financement clandestin de groupes terroristes en Syrie.
Oui, étant rappelé que Lafarge est soupçonné d'avoir versé des bakchiches à Daesh pour poursuivre ses activités en Syrie, et que, comme le rappelle encore ce matin le quotidien communiste L'Humanité, sous couvert de révélations antérieures de Libération, l'État français aurait de fortes chances d'avoir été mis au courant des agissements du groupe Lafarge en Syrie. Mediapart révèle le contenu d'une écoute téléphonique entre l'ancien coprésident de Lafarge, Bruno Lafont, et un communicant parisien qui témoigne, selon ce journal en ligne, de la panique des actionnaires de Lafarge à la suite de la révélation de cette affaire. Cette écoute téléphonique a été réalisé par la douane judiciaire française le vendredi 13 octobre 2017. Ce jour-là, Bruno Lafont téléphone à Clément Leonarduzzi, patron de l'agence Publicis Consultant, qui gère son image et qui lui conseille de ne pas s'exprimer publiquement sur cette affaire car, dit-il à Bruno Lafont, il risque de rouvrir une boîte. Entendez ? Une boîte de Pandore, bien sûr. Et qu'alors se posera la question de savoir jusqu'où il pourra aller dans la mise en cause collective. Vous avez bien entendu, mise en cause collective, c'est-à-dire jusqu'à qui, interroge Mediapart. S'exprimer publiquement, c'est une arme de destruction massive, dit encore ce communicant à son client Bruno Lafont, avant d'ajouter que des administrateurs de Lafarge sont, je cite, en flip derrière, c'est-à-dire en clair qu'ils ont peur, hein, d'accord. Et il cite les noms de Sawiri, qui n'est autre que le milliardaire égyptien Nassef Sawiri, et de Desmarais, en l'occurrence l'homme d'affaires canadien Paul Desmarais Jr., lui aussi administrateur de Lafarge. Mediapart reproduit également un échange téléphonique réalisé à la demande de la justice belge entre le banquier d'affaires Gérard Frère, président du groupe Bruxelles Lambert, et Victor Deloy, l'un des administrateurs de ce groupe, Deloy ou Deloy, je ne sais pas, écoute déjà révélé par le journal Le Monde et dans lequel ce dernier dit à Albert Frère, au sujet de ces administrateurs de Lafarge qui flippent, hein, on vient d'en parler, et qui dit ceci, ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est d'être resté passif, de ne pas avoir été curieux, que ça les arrangeait bien et que ça, c'est un crime parce que, dit-il, le financement du terrorisme, c'est grave. C'est le moins que l'on puisse dire.
En France, près d'un an après son entrée en fonction, le gouvernement n'a pas la cote et les principaux ministres restent très peu connus.
Oui, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info, 6 Français sur 10 sont mécontents de l'action du gouvernement et 46% des personnes interrogées affirment encore ne pas connaître suffisamment les ministres pour exprimer une opinion. Alors, la plus populaire, c'est la ministre des Sports, Laura Flessel, avec 41% de bonnes opinions, devant le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, tous deux à 38%. Les autres sont un peu loin derrière.
En France encore, envers cette mise au point au sujet de la fiscalité locale.
Oui, le ministre de l'Action et des Comptes Publics dit au journal Le Parisien ce matin que la suppression de la taxe d'habitation concernera tous les Français sans contrepartie. Il n'y aura pas de tour de passe-passe où l'on supprime des milliards pour aller les chercher ailleurs, dit Gérald Darmanin, qui explique vouloir financer les 8 à 9 milliards d'euros que coûtera cette suppression de la taxe d'habitation, notamment grâce à une refonte de la fiscalité locale. Toutefois, la question de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires n'est pas tranchée. La question se pose en effet de maintenir cette taxe, complète Gérald Darmanin dans Le Parisien. Poser la question, n'est-ce pas y répondre ?
C'était la revue de presse de Norbert Navarro. Et dans 10 secondes, toute l'actualité africaine sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute.